les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Un poème qui permettrait de comprendre l'art, ou du moins de donner à un peintre la clé, une clé, pour comprendre sa propre peinture. Une clé, il peut y en avoir plusieurs, au moins une deuxième qui servirait à ouvrir le coffre. Un poème, oui, signalé et lu à Gilles Lapouge par Pierre Soulages, son invité dans Agora le 26 avril 1979. Émission dans laquelle Pierre Soulages évoquait, en plus de Guillaume IX, la verrière de la gare de Lyon, une visite enfant à Conques et l'architecte Bullet et son architecture des ombres.
Ce que je voudrais vous proposer, Pierre Soulages, d'ailleurs vous en étiez d'accord, c'est peut-être d'éviter de parler directement de la peinture. Et au fond, il y a parfois des émissions où on demande à un peintre son concert égoïste, ou bien à je ne sais qui son musée imaginaire. Et vous, je voudrais un petit peu qu'on se livre au même travail peut-être, c'est-à-dire il y aura sûrement toujours la peinture en référence, mais j'aimerais qu'on l'aborde au fond par d'autres biais, par exemple par celui de la poésie, peut-être par celui d'autres arts. Oui. Alors, je sais que vous aimez beaucoup la poésie, que vous connaissez bien la poésie, et des poètes d'ailleurs, et il doit y avoir quelque part une rencontre entre vous et la poésie.
Oui, mais pour en rester dans le domaine des généralités, je suis bien d'accord pour parler de la poésie qui m'intéresse, mais vous savez, Éluard avait fait une distinction entre poésie intentionnelle et poésie involontaire. Et au fond, le côté involontaire de certaines choses qui m'ont touché me paraît, pour moi en tout cas, dans ce paysage intérieur que vous voulez au fond essayer de me faire définir, aussi important que les œuvres, que les textes qui ont leur importance, oui, pour moi, mais très très grande, mais que des textes ou que des œuvres considérées dès le départ comme œuvres d'art, oui, que ce soit des poèmes, que ce soit des architectures, que ce soit enfin tout ce qui peut et tout ce qui a formé ma sensibilité.
Alors parmi les textes quand même.
Parmi les textes, j'ai envie de remonter assez haut et assez loin, et en particulier au troubadour. Et un des premiers troubadours, qui était Guillaume IX, duc d'Aquitaine, qui a été le grand-père d'Éléonore. Ouais. Qui est connu parmi les troubadours, mais que je connais moi depuis pas tellement longtemps, depuis pas mal d'années certes, mais pas dans mon jeune âge. Et lorsque j'ai rencontré en particulier un poème de Guillaume IX, que je vais vous lire, ou du moins dont je vais vous lire une traduction un peu approximative, j'étais très touché, très très intéressé, plus d'ailleurs par les idées que sur l'art que ce poème contient, et idées sur l'art qui me paraissent tout à fait contemporaines, enfin tout à fait proches en tout cas des nôtres, ou des miennes plus exactement. J'étais étonné qu'un homme de cette époque puisse avoir senti, pensé la poésie d'une manière aussi proche de ce que je ressens, par exemple, ou que je pense, la peinture. Et le poème, je ne vais pas vous le lire en langue d'oc.
Vous savez lire en langue d'oc quand même ?
Non, je ne sais pas lire en langue d'oc. Non, parce que c'est une langue d'oc qui n'a pas grand-chose à voir, enfin si, qui a beaucoup à voir avec la langue d'oc de maintenant, mais qui est une langue d'oc ancienne. Et je connais, d'ailleurs, moi-même, La langue d'oc actuelle, je ne la parle pas, je la comprends. La langue d'oc est un patois, enfin, dans mon pays, on appelle le patois, à vrai dire. Mais, c'est plus exactement, qu'on appelle le patois dans mon pays, mais que beaucoup vous diront ne pas être un patois. Voilà une traduction approximative. Il commence en disant « Je ferai un poème sur le droit néant ». Drayte, il écrit. Drayte, ceci dit en passant, signifie dans cette langue aussi bien « droit » que « pur ». Et c'est aussi significatif que le même mot serve à désigner deux choses comme ça. Ça correspond à quelque chose d'intéressant. « Je ferai un poème sur le pur néant. Il ne sera ni sur moi, ni sur quelqu'un d'autre, ni sur l'amour, ni sur la jeunesse, ni sur rien d'autre. Il m'est venu pendant que je dormais sur un cheval. » Et alors là, il y a contenu déjà un certain nombre de choses étonnantes pour l'époque, et même pour maintenant. Même pour aujourd'hui, le refus de tous les thèmes tels que l'amour, la jeunesse, la mort, enfin tout ça, non.
Oui, et puis le sommeil.
Et puis, il m'est venu pendant que je dormais sur mon cheval, c'est déjà le surréalisme. Et enfin, c'est au début du Moyen-Âge, enfin c'est extraordinaire. Je ne sais à quelle heure je suis né, si je suis joyeux ou en colère, ni si je suis étranger ou d'ici. Et je n'y peux rien si une nuit je fus ensorcelé par une fée, enfadé. Oui. Le fada dans le midi, c'est l'homme touché par la fée. Je ne sais si je dors, ni quand je suis réveillé, sauf si on me le dit.
C'est fantastique.
Pour un rien, j'ai le cœur déchiré d'un deuil poignant, et je n'en fais pas plus cas que d'une souris, par Saint Martial.
C'est charmant.
C'est très, 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 très intéressant. Alors, il y a malade, j'ai peur de mourir. Je tremble de mourir. Je ne sais et je ne sais rien d'autre que ce que l'on m'en dit, que ce que je l'entends dire. J'appellerai un médecin à ma fantaisie, à mon goût, et je ne sais lequel, parce qu'il ne sera bon que il sera bon s'il peut me guérir, mauvais si mon mal empire. Et alors voilà où des choses deviennent intéressantes aussi sur le plan de la recherche continuelle, de la quête poétique que l'on rencontre finalement dans tous les arts. J'ai une amie, mais je ne sais qui elle est, car sur ma foi, je ne l'ai jamais vue. C'est très beau, hein, c'est pas... Et elle ne m'a jamais fait de choses qui me plaisent ou me déplaisent. Et puis cela m'est égal. Car il n'y a jamais eu ni normand ni français dans ma maison. Ni normand ni français, ce sont les ennemis étrangers. Enfin, ce sont les... Jamais je ne l'ai vue, et je l'aime beaucoup, je l'aime fort. Jamais elle ne m'a fait droit ni tort. Quand je ne la vois pas, je m'en porte bien. Et je ne l'aime pas plus qu'un coq, car j'en sais une autre, plus aimable et plus belle, et qui vaut bien davantage. Alors ça, c'est étonnant, ça, c'est toujours étonnant, cette quête continuelle de la... Alors, mon poème, mon vers est terminé, mon poème est fait. Je ne sais pas sur quoi. Je le transmettrai à quelqu'un, à celui qui le transmettra par quelqu'un d'autre, là-bas, vers l'Anjou. Pour qu'il me renvoie, pour qu'il me transmette de son étui, la contre-clé. Alors ça me paraît un peu obscur, mais c'est extrêmement intéressant. Enfin, moi, je le comprends, en tout cas, comme ça. Et cela m'a intéressé pour cette raison-là. Mon poème est fait, je ne sais pas sur quoi. Ouais. Et ça me paraît aussi très important. Il sent que son poème est terminé, que la forme on ne peut rien y ajouter, rien y retrancher, que cela fait un tout, il ne sait pas sur quoi. C'est d'ailleurs une manière de refuser le sens, le sens unique, celui que l'on peut mettre, et au contraire de porter, de demander que l'on porte attention à tous les sens qui peuvent venir se faire et se défaire sur ce poème. Et c'est ça qui est important, et c'est ce qui me rend rend ce poème-là et cette manière de comprendre l'art proche de ma manière de comprendre la peinture.
Oui.
Mon poème est fait, je ne sais pas sur quoi, et je le transmettrai à celui qui le transmettra par quelqu'un d'autre. Alors ça, c'est le rôle, presque le rôle du critique, c'est le rôle du spectateur privilégié, qu'est normalement le critique, qui transmet le poème, mais c'est quelqu'un d'autre qui le transmettra là-bas, quelqu'un d'autre qui le fait lire. Et ce quelqu'un d'autre, c'est le spectateur pour la peinture, c'est le lecteur pour le poème, et il est là-bas, il est loin, vers l'Anjou, n'est-ce pas? Et pour qu'il me transmette de son étui, c'est-à-dire de sa propre, création poétique, de sa propre, c'est le rôle créateur du spectateur, c'est le rôle actif du spectateur. Pour qu'il me transmette de son étui, la contre-clé, c'est-à-dire la deuxième clé qui sert à ouvrir le coffre. La contre-clé, c'est une des interprétations qui ouvre à une autre interprétation.
Donc c'est un poème qui est parfaitement clos quant à sa forme, mais qui est complètement ouvert quant à son destin, finalement.
En tout cas, c'est le poème lui-même, c'est presque, je crois, une profession de foi artistique. Et c'est dans ce sens-là que je l'aime. Évidemment, la poésie, ça n'a pas... vous me direz quels sont les grands poètes que vous aimez. Il ne me viendra peut-être... Je vous dirai sûrement Guillaume Neuf, parce que pour moi, ça a été une révélation. Mais je ne l'aime pas de la même manière que Rimbaud. Et Rimbaud, finalement, me touche... beaucoup, peut-être beaucoup plus, et peut-être va beaucoup plus loin en moi que le discours esthétique qu'il y a sous-jacent au poème de Guillaume Neuf.
Pierre Soulages, peut-être tout à l'heure, nous reviendrons sur la poésie, parce que je sais que vous aimez aussi la poésie moderne, et que vous connaissez pas mal de poètes modernes, même, vous en avez, ce sont de vos amis, mais vous m'avez quand même tout à fait excité tout à l'heure, quand vous parliez de ces sortes d'aventures poétiques, c'est-à-dire de rencontres avec peut-être des objets, volontaires ou non volontaires.
Oui, c'est vrai. Et là, je ne vais pas vous parler de peinture, bien que, au fond, je ne cesse de faire ça depuis tout à l'heure. Mais
c'est la contre-clé.
C'est quand même une peinture. Quelquefois, on me demande quelles sont les peintures qui vous touchent, qui vous ont. Alors, on a bien sûr dans l'esprit quand on me pose cette question les peintures que j'ai pu voir dans les grands musées, au Louvre ou ailleurs. Et j'ai toujours envie de dire une chose que je ne dis pas, que je dis quelquefois, mais enfin prenant des précautions, parce qu'elle paraît provocante. Et alors qu'en réalité, dans mon esprit, c'est pas du tout une provocation. Alors j'en parlerai, bien qu'il ne s'agisse pas d'une peinture, et bien qu'il s'agisse de peinture, il s'agit de quelque chose que j'ai vu. Quand je suis arrivé juste après la guerre, c'était après...
À Paris.
À Paris. Je suis arrivé à la gare de Lyon. Par le train qui m'a mené du midi où pendant la guerre je m'étais caché pour échapper au STO. Et en arrivant, la verrière de la gare de Lyon, qui recouvre le hangar, enfin la gare proprement dite, le verre de cette verrière avait été cassé probablement par des éclats de DCA ou de je ne sais quoi et avait été réparé. Et la réparation consistait à, pour boucher les fentes qu'il y avait, on avait passé avec une brosse maladroite un pinceau de peintre en bâtiment, probablement un pinceau même un mauvais pinceau, on avait passé du goudron sur ces et j'ai été très très ému par ce spectacle. Et quand on me parle de peinture, je pense à ça, parce que ça a été un choc pour moi. D'abord, parce que il faut se rappeler aussi du moment auquel ça arrivait. C'était juste après la guerre. On venait de vivre cette période terrible. Et il y avait là quelque chose de pauvre dans la manière de élémentaire et simple de tracer un trait de peinture. Et puis, ce n'était pas n'importe quoi non plus, parce que les traits avaient une espèce de cohérence qui n'était pas tellement due à leur qualité pictural, si j'ose dire, propre. Mais encore que cette qualité était très émouvante, puisque comme je vous l'expliquais, il y avait quelque chose qui n'était loin de l'inflexion, de la beauté appliquée que l'on peut rencontrer dans toutes les peintures, dans les calligraphies. Il y avait quelque chose de très... Il y avait une espèce d'urgence, un caractère pauvre, je l'ai dit, mais... et sans affectation. C'était des grands coups de brosse. Et ce qui était très beau aussi, c'est qu'il s'opposait à la lumière. La lumière venait de derrière et il n'en paraissait que plus sombre. Ouais. Puis il y avait aussi cette résonance brune du goudron qui était aussi très émouvante, qui agissait très fort sur ma sensibilité. Mais enfin, ils étaient organisés aussi, ces coups de brosse. Ce n'était pas n'importe quoi, comme on aurait pu croire. Parce qu'ils suivaient les lignes à travers qui était celle où le verre s'était fendu. Ouais. Et un verre ne se fend pas n'importe comment. Un verre qui est tenu par un châssis, par un cadre, comme c'était le cas de dans cette verrière, les lignes de cassure ont une espèce de cohérence qui est née à la physique du choc, ouais, de l'éclat de DCA qui a frappé le verre et des vibrations que le verre a subies. Enfin, ce n'est pas n'importe quoi. Ouais. Ce n'est pas un hasard. On y sent la rencontre là de plusieurs séries causales. Et péniblement, maladroitement, gauchement, cette gaucherie d'ailleurs me touchait beaucoup. Mmh. Et ça a été un événement très important. Et cette gaucherie, finalement, ça n'en était pas. Puisque à partir du moment où une chose vous émeut parce qu'elle est...
Le problème ne se pose plus.
Et ça me rappelle une autre aventure que j'ai eue. Alors quand j'étais tout jeune, j'étais à Conques, et le professeur Conques, qui est une église romane tout près du lieu où j'ai fait mes études, tout près de Rodez, où je suis né, le professeur qui nous avait accompagnés là, nous montrait la maladresse du sculpteur roman. Et j'étais révolté. Je ne pouvais pas arriver à comprendre que l'on considère comme maladresse ce qui avait une telle action sur la sensibilité et de tous les gens qui étaient là, d'ailleurs.
Parce que l'architecture romane a eu beaucoup d'importance.
Là, il était question de sculpture. Mais l'architecture elle-même, l'architecture romane, oui. Je peux même dire que, à l'origine, dans mon enfance, c'est ce qui m'a décidé à considérer que l'art était la seule chose qui mérite que j'y consacre ma vie. Mais enfin, ça, c'était le choc qui m'a décidé à ne faire que de la peinture, ce que je suis arrivé à faire.
Mais qu'est-ce qui vous touche dans l'architecture romane en particulier ? Est-ce que vous y voyez une sorte de prémisse ou de rencontre avec ce qu'on appelle aujourd'hui d'un terme impropre, mais enfin l'art abstrait, par exemple, par certains aspects ?
Oui, exactement. L'art abstrait, qui est un très mauvais mot, il faut le dire, mais on ne le répétera jamais assez. On devrait dire art concret. Et puis dans l'art abstrait, il y a tellement de tendances différentes, il y a tellement de gens d'artistes intéressants et dans des tendances qui comprennent ce mot-là même d'une manière totalement différente. Enfin, je ne vais pas faire un panorama de ça. Mais il est certain que lorsqu'on entre dans une cathédrale romane, ou que lorsqu'on rentre même dans une architecture qui ne soit pas une de cette époque, si on est touché par cette architecture-là, si on est ému par les proportions, par des volumes, par des volumes, par la lumière, parce qu'une architecture sous-entend toujours la lumière, par l'espace qu'elle crée, les rapports qui s'établissent entre l'homme, celui qui regarde et qui est ému, et le bâtiment qu'il a devant lui, ou autour de lui. Au fond, tout ce jeu qui opère sur la sensibilité de celui qui regarde, c'est très comparable à ce qui se passe dans une peinture abstraite, quand on regarde une peinture abstraite telle que je la comprends, de mon abstraction, si vous voulez.
Vous m'avez parlé aussi tout à l'heure d'un groupe d'architectes qui vous fascine beaucoup. Ce sont ces architectes que vous appelez révolutionnaires. Moi, je croyais que
de la période révolutionnaire.
Oui. Moi, je les appelais architectes utopiques, mais enfin.
Oui, mais c'est une période. Ça coïncide.
Ça coïncide. Oui.
Tout dépend comment on prend les choses.
Alors, malheureusement, nous n'avons plus beaucoup de temps pour ces architectes. Il nous reste bien 3 minutes, mais vous nous dites
écoutez,
quand même un mot.
Je vais peut-être. Il y a un de ces architectes que j'aime énormément, qui est Boulet,
oui.
Qui est un comme le Doux que j'aime également beaucoup et qui a écrit des choses au fond très voisines qui correspondent à ce que je viens de dire là maintenant. Il a écrit à propos de l'architecture, cette espèce de production demande plus particulièrement que tout autre la poésie de l'architecture.
Ça m'en plaît dans le sujet d'aujourd'hui.
Oui,
hein.
C'est cette intéressante poésie que j'ai surtout cherché à introduire.
Oui.
Je crois que... Et il dit un peu plus loin à propos de l'architecture des ombres. Et il raconte comment, au fond... Alors ça, c'est une démarche d'artiste qui m'a aussi beaucoup séduite. Et c'est un poète, finalement, qui m'intéresse beaucoup. C'est un poète de l'architecture.
Et l'histoire de l'architecture ensevelie aussi. Hein,
oui, et puis aussi l'architecture des ombres.
Ouais.
Et alors il dit, me trouvant à la campagne, j'y côtoyais un bois au clair de la lune. Mon effigie, produite par la lumière, excita mon attention. Assurément, ce n'était pas une nouveauté pour moi. Les arbres dessinés sur la terre par leur ombre me firent la plus profonde impression. Ce tableau s'agrandissait par mon imagination. Alors ça, c'est magnifique.
Oui.
Ce tableau s'agrandissait par mon imagination. Bien, c'est ce qui se passe aussi devant la peinture. Enfin, c'est le rôle du spectateur. Et même à travers cela, nous retrouvons Guillaume IX.
Oui.
J'aperçus alors tout ce qu'il y a de plus sombre dans la nature. Qui voyais-je ? La mâche des objets se détachant en noir sur une lumière d'une pâleur extrême. La nature semblait s'offrir en deuil à mes regards. C'était
ça.
Il aimait beaucoup ses notafs, les choses comme ça. Frappé des sentiments que j'éprouvais, je m'occupais dès ce moment d'en faire une application particulière à l'architecture. Alors voilà, ça c'est un artiste. C'est un... J'essayais de trouver un ensemble composé par l'effet des ombres. Eh bien, ça, c'est magnifique. Voilà une démarche de poète et de grand architecte.
Vous n'avez pas le texte sur l'architecture ensevelie, on a encore 30 secondes, vous n'avez pas là.
Si, j'ai ce texte-là, je crois. Il disait, oui, il aimait beaucoup. Il a été un des novateurs, enfin, de l'architecture souterraine, qui est maintenant très, très, très en vogue. Après m'être dit à moi-même, que le squelette de l'architecture est une muraille absolument nue et dépouillée, il m'a semblé que pour rendre le tableau de l'architecture enseveli, je devais faire en sorte qu'en même temps que ma production satisferait dans son ensemble, le spectateur présuma que la terre lui en dérobe une partie. Alors ça, c'est ce rôle de l'imagination qui permet de retrouver ce que la terre dérobe. Enfin, c'est aussi...
Bien. Bien, Pierre Soulages, malheureusement, nous avions beaucoup de choses à dire encore. J'aurais voulu vous parler des poètes d'aujourd'hui, des historiens d'aujourd'hui, puis vous êtes très liés avec Le Goff, avec Duby, etc.
Oui.
Malheureusement, nous sommes obligés de nous séparer et je vous remercie en tout cas.
C'était Agora, Pierre Soulages au micro de Gilles Lapouge le 26 avril 1979. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.